Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, dimanche 6 mai, je suis en compagnie d'Agnès Dauban, bonjour.
Bonjour.
Et tous deux sommes donc au Square de la Comtesse. Mm. Tu es là de passage à Die pour nous annoncer tes prochaines prestations qui seront à voir le 6 et le 7 juillet.
Voilà, à Viterre. Alors, les prochaines en date, du coup, ça sera le vendredi 29 juin à Valdrome pour le festival de Valdrome, où je viendrai faire des contes nouveaux, des contes anciens, des contes de tout poil et de tout bord. Et je crois que j'ai deux interventions dans la journée, deux temps comptés. Voilà, tout public, Philomène est de retour. Et puis en juillet à Abiter, le 7 et 8 juillet, donc dans la salle commune de Abiter, je vais donner un stage de conte, théâtre, voilà. Pour cette fois plus pour un public adulte.
Alors on va aborder un petit peu Philomène, comment se porte-t-elle ?
Eh ben Philomène, elle était partie en elle était un peu partie en voyage. Elle revient. Je sais pas si c'est Philomène qui revient, si c'est la petite fille de Philomène qui a trouvé la valise de Philomène au grenier et qui continue ce qu'avait commencé sa grand-mère.
Elle a eu une descendance, donc.
Ouais, c'est ça.
Mais on connaît pas toute Philomène.
Non, mais j'avais envie de faire un peu peau neuve avec Philomène parce que je la trouvais un peu désuète, ce qui faisait son charme. Mais bon, voilà, moi j'avais envie de faire un peu peau neuve avec Philomène. Donc du coup, je trouve des subterfuges qui n'intéressent que moi finalement, mais ça m'aide quand même à avancer dans mon chemin de Philomène et de conteuse.
Voilà, et Grismine ?
Grismine, ben, c'est cyclique, hein. Il va bien, il va pas bien, il va bien, il va pas bien. Mais par contre, dans le spectacle, du coup, L'autre et moi, c'est ce pourquoi je suis venue passer quelques jours. Là, je travaille avec FIF, Jean-Philippe Nicole, Pixengrain, qui me fait mon super teaser de L'autre et moi. Donc voilà, L'autre et moi cherche toujours à tourner. Dans en salle, hein, cette fois c'est pas du tout en extérieur et tout ça. Voilà, donc ça c'est un spectacle qui cherche à se faire connaître et qui mérite, qui est bien là. Voilà, donc pour ceux qui l'ont vu il y a quelques années, ça vaut le coup de le revoir, donc guettez ou faites-nous venir.
Oui, je l'avais vu la dernière fois, c'était au Loco Loco à l'époque.
Oh là, ouais.
Et après, j'ai vu la forêt d'horloge.
La forêt des heures.
La forêt des heures, voilà. Ouais. C'était différent, là, quand même.
Ouais, j'ai fait plein de choses différentes, du coup. La forêt des heures, ça m'a amené vraiment dans un style complètement différent que ce qu'on avait connu ici. Et d'ailleurs, du coup, je pense qu'il y a des Diwa qui se sont dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait, Agnès ? Pourquoi elle fait ça ?» parce que ça ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient de moi. Mais voilà, ça y est, La Forêt des Heures est un spectacle qui a abouti maintenant, qu'on va tourner en Bretagne cet été. Et pareil, qui cherche à tourner partout. Moi, je suis très contente d'avoir fait ce spectacle. Déjà, d'avoir travaillé en équipe, ça me change de mes solos. Et puis c'est un style complètement différent que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, j'explore.
Ton exploration de Philomène, elle se fait par le biais d'un texte dont tu t'imprègnes ou que tu as rédigé et dont tu t'imprègnes pour le relayer au public.
C'est très varié. Il y a des textes, par exemple, comme ce texte de Peter Handke que j'aime beaucoup, que je dis, voilà, c'est un texte de théâtre, donc je le dis au mot près. Et sinon, il y a des histoires qui me touchent, je ne sais pas encore trop comment les aborder. J'ai envie de les raconter, donc je ne me prive pas de les raconter. Et en les racontant, elles trouvent leur place, leurs mots et leur sens. Et puis, il y a des histoires qui me trottent dans la tête, donc je les re-rédige à ma sauce, sachant très bien ce que j'ai envie d'y mettre, moi, comme patte, quoi. Comme le petit chaperon rouge que je raconte, qui est la version primitive du petit chaperon rouge, mais que je passe à travers le filtre de mon regard, de ma critique et de ma fantaisie, quoi.
C'est le travail d'une vie, en quelque sorte.
En tout cas, les histoires sont mes compagnes, ça c'est sûr. Et vraiment, pour moi, c'est clair que je me suis posé la question si je faisais autre chose, si je partais faire du macramé en Ardèche ou je sais pas quoi. Mais finalement, je vais continuer parce qu'il m'apparaît que ça demeure quelque chose d'important de raconter des histoires, d'essayer de comprendre le monde à travers ces histoires qui sont vieilles ou récentes, et puis de donner des mots, de mettre des mots sur le monde qui nous entoure et sur les émotions des humains. Je trouve que c'est important de mettre des mots, et j'ai envie de raconter encore aux petits, aux grands, voilà.
L'importance pour toi des mots, est-ce que tu la retrouves dans ce qui nous entoure, dans ce que les médias nous abreuvent, je dirais. Est-ce que les mots utilisés ont toujours cette virginité, en quelque sorte ?
Des fois, peut-être qu'on les utilise à tort et à travers. Moi, j'aime bien choisir mes mots, les peser. Je trouve que c'est savoureux, un mot, et que c'est agissant. Enfin, voilà, pour moi, c'est des outils. Il y en a qui se servent des pierres pour soigner. Il y en a qui se servent des huiles essentielles. Il y en a qui se servent de leur magnétisme. Moi, je me sers des mots parce que je trouve qu'ils portent en eux une puissance, une poésie, une beauté, une évocation. Et voilà, donc effectivement, je trouve que c'est bien de continuer à choisir ces mots et à choisir les mots qui nous correspondent à nous. Et c'est pour ça aussi, dans ce stage, je reviens au stage du coup, ce qui me plaît à accompagner les gens dans le fait de raconter des histoires et du coup de se raconter à travers les histoires, c'est une histoire que tout le monde connaît, dite par telle ou telle personne, et ben c'est plus la même histoire parce qu'elle y met ses propres mots, ses propres images, sa propre fantaisie, son propre affect, enfin tout son univers, quoi. Oui. Et ces stages, je trouve ça très beau parce que chaque personne qui passe sur scène, c'est vraiment une fenêtre que j'ouvre sur un univers. Et puis les gens se doutaient pas forcément qu'il n'était pas encore palpable pour eux, leur univers en fait, ou leur fantaisie. Et du coup, c'est juste de rendre cette chose palpable et de savoir que ils sont en bonne compagnie avec eux-mêmes parce qu'ils sont pleins de ressources, quoi.
En fait, au départ de ces stages, il y a un concept que tu proposes aux stagiaires, une idée, et puis ou alors il y a un texte.
Je demande aux stagiaires de venir avec l'envie de raconter une histoire. S'ils n'ont pas encore trouvé l'histoire, ils peuvent la trouver en cours de stage, j'amène des bouquins, etc. Donc avec l'envie de raconter une histoire et puis la conscience de, comment dire, de, je dis souvent, moi je prends très au sérieux le fait de ne pas se prendre au sérieux. Donc l'envie de se faire une fête de ce qu'on est, de s'amuser, quoi. De se faire une fête, en tout cas, de ce qu'on est.
Agnès, cet stage s'adresse aux adultes, hein, comme tu disais, mais est-ce qu'il y a... c'est pour tous les âges ?
Alors, pour tous les âges, ouais, les adultes. Et j'invite aussi les en phase de devenir adultes. Donc... je dirais à partir de 15 ans, 16 ans, voilà, comme ça, parce que j'aime bien aussi le regard des grands enfants ou des en face de devenir adultes, ces âges intermédiaires. Je trouve que c'est des âges bien éclairés et que ça nous fait du bien de les entendre.
Ça fait combien de stages que tu as organisé autour de cette idée?
Ça doit être le sixième. Ou... Ben j'ai commencé plus dans le sud, vers Aubagne. Oui. Aubagne, Marseille, et puis les bibliothécaires de la Drôme et les bénévoles des bibliothèques. Donc ça, c'était organisé par la médiathèque de Valence. Donc voilà, c'était des stages qui étaient organisés du coup plutôt sur Valence. Et puis en fait, ça fait depuis un moment, enfin depuis à peu près le début que j'habite ici, qu'on me demande si je veux pas faire des stages ou des cours réguliers. Je voulais pas faire de cours réguliers ici parce que j'aime bien ma vie irrégulière. Et puis revenant ici, je me suis dit que ça serait bien maintenant de donner des stages aussi ici, que ça serait une manière de garder un lien avec le Diwa.
Qu'est-ce que rapportent ces stages aux personnes qui y viennent? Quel est le retour pour elles?
La sensation que j'en ai, c'est que ça leur apporte une rencontre déjà avec eux-mêmes, un enrichissement de leur univers du fait de rencontrer aussi les autres univers. Elles se branchent un peu avec leur fantaisie, ouais, avec leur particularité, et puis un peu d'audace, en fait. Je pense que ça apporte un peu d'audace. C'est le petit plus pour j'aimerais bien raconter, mais je suis pas conteuse, j'oserais pas. Je dis conteuse parce que c'est souvent des femmes qui viennent. Pourtant, j'aime bien quand il y a des hommes qui viennent aussi au stage. Hein. Donc venez, n'ayez pas peur de parler. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, c'est de l'audace. Ils n'osaient pas trop. Et puis finalement, moi, avec qui je suis, avec comment je suis, les mots que j'ai, c'est intéressant du moment où c'est vrai. Où c'est vrai pour moi, ça devient intéressant pour les autres aussi.
Ces stages durent une journée, combien de temps?
Du coup, là, ce stage-là à Abiter, ça sera juste un week-end. Je voulais commencer par juste un week-end pour voir s'il y a du monde qui vient, si les gens sont intéressés, etc. Et puis, ce qui serait le pied, ça serait d'arriver à faire des stages d'une semaine. Mais il faut que les gens puissent se rendre disponibles, etc. Bon, on verra ça. S'il y a un petit groupe qui se constitue, on pourrait imaginer un travail un peu régulier, un accompagnement, quoi.
Alors, mis à part Philomène, la forêt des heures, tes stages, il y a d'autres perspectives en vue?
Pour l'instant, j'ai passé 11 ans ici, dans le Diwa. Je me suis bien construite professionnellement, construit mes outils, quoi. Et puis j'ai plus envie de... Je vais m'empêcher de créer un nouveau spectacle.
Oui.
Je me tape un peu sur les doigts pour pas le faire tout de suite, parce que j'ai tout le temps plein d'idées qui fourmillent, là. Mais là, j'ai plus envie de vraiment pouvoir promouvoir mes spectacles. Notamment L'autre et moi, que je joue avec Moïse Ismo.
Oui.
Et donc sur le territoire, j'ai vraiment envie de continuer à promouvoir L'autre et moi, faire des nouveaux contes parce que je trouve que, voilà, comme je l'ai dit, c'est important de continuer à découvrir des histoires et à les partager. Et puis La forêt des heures aussi, qui va tourner, qui va revenir en automne à la gare à coulisses. Et du coup, on cherche aussi d'autres lieux pour jouer ce spectacle.
La forêt des heures, comme tu dis, était étrangement perçue dans le Diwa par rapport à ce que l'on connaît de toi. Est-ce que toi-même, tu t'es retrouvé dans ce spectacle?
Alors moi, ça a été une belle traversée. C'est un spectacle assez initiatique de comment on l'a traversé, les thèmes qu'on y a rencontrés, qu'on s'est proposé d'aborder, quoi, en tout cas de vivre, de traverser, d'éprouver. Et comment dire, ouais, c'est vraiment là pour le coup, c'est chaque conte a quelque chose de comment dire, d'initiatique, ouais, c'est ça. Et La Forêt des Heures, ça a été, ouais, pour moi une belle initiation, alors qui peut-être est personnelle et du coup moins évidente pour le public qui regarde. Mais en tout cas, enfin, cette création m'a bien fait évoluer, m'a bien fait grandir. Et voilà, je pense que j'aurai encore des choses à y découvrir tout en le jouant, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, si. Ouais. Et on peut parler peut-être aussi des autres comédiens qui jouent dans ce spectacle. Mmh. Les présenter même brièvement, si tu souhaites.
Ouais. Alors, comme autre comédienne, enfin, toute l'équipe, donc comédien, plasticienne et musicien. L'autre comédienne avec moi sur scène, c'est Muriel Masson, enfin plus connue sous le nom de Malèle, qui a habité quelque temps dans le Diwa. Et qui a fait du spectacle pendant des années et des années, cirque, musique, théâtre, danse africaine, et qui maintenant est plus consacrée au volet thérapeutique et à la kinésiologie. Et donc voilà, c'est Malèle qui est sur scène avec moi. Donc c'est vrai qu'on aborde aussi le travail pas mal de manière pas thérapeutique, mais comment dire. Ouais, c'est ce que je disais, initiatique, quoi. Que le spectacle, le lieu du spectacle, le temps du spectacle est un temps de rituel aussi. Donc où nous, on se donne dans le spectacle, on a quelque chose à y puiser, à y traverser et à transmettre. Et le spectateur est invité aussi à laisser aller un peu sa compréhension habituelle du monde pour rentrer dans une autre... une autre ouverture, une autre compréhension, quoi. Et c'est parfois la difficulté avec ce spectacle, c'est qu'on donne pas toutes les clés et que des fois, ben, les gens, ils ont un peu du mal à se laisser aller. Les enfants le perçoivent très 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 bien, ce spectacle, ils ont tout compris, ils peuvent expliquer aux adultes, mais les adultes des fois ils ont besoin que ce soit un peu plus marqué en gros titres. Là, vous êtes en train de vivre ça, là, vous êtes en train de vivre ça, et là, vous êtes en train de vivre ça. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire dans ce spectacle. Donc, bon, voilà, je m'éloigne un peu. Et donc, l'autre personne, c'est Marc Bernat, qui joue de la vielle à roue. Voilà, girovielliste, plutôt baroque, pas folk, mais plutôt baroque. Mais qui est prêt à jouer de la vielle à roue, rock'n'roll. Tu lui dis de faire un blues de Tom Waits, il te le sort, enfin voilà. Et puis l'autre personne qui est présente par ses œuvres avec nous sur scène, c'est Lara Manipou, qui est une plasticienne de génie, et donc qui a fait tout le travail de masque, de fresque, parce qu'il y a une grande fresque peinte, et il y a aussi des images projetées au rétroprojecteur. Donc voilà, elle a fait des œuvres sur calque qu'on peut projeter sur les voilages du décor.
Quand tu parles de parcours initiatique, ça me fait penser, j'ai des images d'un film de Guy Madin où un personnage chemine par des passages complètement absurdes et avec des indications de flèches pour suivre, et des fois il revient sur un même parcours pour rebifurquer ailleurs. Enfin, c'est complètement déroutant, je dirais même.
Ouais, mais ça fait penser aussi un peu à l'imaginarium du docteur Parnassus de Terry Gilliam, cette grosse baraque de foire qui arrive dans le monde contemporain là, et puis où chaque personnage qui va rentrer dans cette baraque de foire, chaque personne qui va rentrer dans cette baraque de foire va rencontrer ses propres, son propre imaginaire, ses propres rêves. Et en fait, c'est un peu ça, la forêt des heures, parce que chaque personne qui rentre, chaque personnage de l'histoire qui rentre dans cette forêt des heures va y rencontrer ben, ses grandes capacités, mais aussi ses grandes peurs. Et voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe pour la forêt des heures. Il y a un petit parallèle avec l'imaginarium, en tout cas pour moi, il y a un petit parallèle avec l'imaginarium du docteur Parnassus.
Un spectacle onirique, quelque part.
Complètement onirique, ouais. Ouais, ouais, complètement onirique. Et ça me fait du bien de m'être plongé dans cette poésie, puis d'avoir travaillé avec la matière, parce que moi je travaille toujours sans rien, en fait, avec ma valise et ma chaise, et là avec tout un décor qui est porteur de toute une interprétation du monde ou d'un imaginaire, ça m'a beaucoup plu de mélanger, ça dépendait plus que de moi et de ma force d'interprétation, mais de tout un ensemble de choses avec lesquels on compose ensemble.
Comme parfois dans les rêves, il y a des situations qui se répètent.
Ouais.
Et qui bloquent des fois. Et puis ouais, tout d'un coup, on en sort, on ne sait pas comment.
Ouais.
C'est un peu ça aussi.
Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que bah, dans la forêt des heures, donc les deux premiers frères, enfin le père ressort de la forêt, mais il dort. Les deux frères qui y vont se font avaler. Et la petite fille qui y va arrivera, elle, à avaler le monstre, donc à vaincre, à ressortir victorieuse de ce rêve ou de ce cauchemar. Voilà.
Fix de son œil de Dieu mal. Il me fixe de son œil de Dieu mal. Il me fixe de son œil de Dieu mal. Il me fixe de son œil de Dieu mal. Il me fixe de son œil de Dieu mal.
Alors ça, c'était pour La Forêt des Heures. L'Outre et moi, c'était un spectacle que tu avais aussi joué avec Gilles Roy, je crois.
Ouais.
Et c'est donc Moïse qui prend la succession.
Voilà.
Alors Moïse amène quoi dans ce spectacle ?
Alors Moïse, déjà il amène Moïse, et c'est, ça c'est pas rien, parce que c'est une sacrément belle personne. Et alors Moïse, lui, son rôle dans ce spectacle, du coup il est régisseur, donc il fait la lumière, il a fait la création lumière, et la musique, donc il est DJ. Donc il est vraiment aux manettes du son et de la lumière, et il m'accompagne tout le long, et c'est un peu le personnage qui va me titiller, être témoin de ce que vit cette personne sur scène, et puis l'accompagner aussi, enfin l'accompagner dans le sens porté par certains moments, l'état dans lequel il est la raconteuse, pour qu'elle puisse aller un peu plus loin, quoi.
Et on a parlé de La Forêt des Heures, les stages, on a parlé de tout. Hein. Et puis, tu es parti du Diwa, installé plus au sud. Et je crois que tu souhaiterais peut-être rendre un petit hommage au Diwa.
Exactement. Donc, après 11 ans passés ici, bah déjà, c'est là que je me suis vraiment construite professionnellement. Et puis humainement aussi, j'ai fait un beau bout de chemin. Je trouve que c'était un bel accueil qui a été fait ici, des belles rencontres. Et je repars vraiment riche de tout ça, ému par tout ça. Là, je suis revenue quelques jours, j'ai affronté le marché du samedi. J'ai fait un mètre en une heure d'avoir rencontré tout le monde. Et ouais, je voulais rendre un hommage à cette humanité, quoi, qui se croise, et à cette chaleur. Et je pense que je repars riche et forte de ce que j'ai construit avec vous tous ici. Et ouais, ça m'a donné quand même pas mal de bases, de confiance, et que voilà, j'ai envie d'amener ça du coup aussi ailleurs. Il s'agissait pour moi de pas rester dans cet écrin confortable, qui est vraiment très confortable, mais de retourner dans le grand brassage hors la vallée du Diwa. Mais riche de ce que j'y ai puisé, là, auprès de la comtesse de Die, et au creux des montagnes. Voilà, c'était un peu le... Je sais pas, j'ai des mots certainement un peu insuffisants, mais voilà, pour dire que je pars pas fâchée, bien au contraire, bien riche, bien riche et bien émue de toutes ces rencontres.
Et le nouveau cadre où tu vis actuellement, il y a des similitudes, ou alors c'est vraiment un autre monde avec une autre humanité ?
Mais il y a des similitudes, ça c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que je suis dans une grande plaine, donc déjà géographiquement, ça change beaucoup les choses, ça. Ça circule plus, on croise, enfin je sais pas comment dire, mais il y a plus de brassage, quoi. C'est le sud, donc là je pense que je vais entamer la saison super touristique prout du Luberon, parce que je suis dans le Luberon quand même. Voilà, après moi ce que j'y trouve, c'est un coin que je connaissais, j'y ai vécu longtemps aussi avant de venir à Die, et j'y retrouve les odeurs, les couleurs, la lumière qui c'est chez moi, quoi. Donc ça, c'était important pour moi de retrouver ça. Et après, le milieu dans lequel j'ai atterri finalement, c'est un milieu de maraîchers, paysans boulangers, pépiniéristes, très très en lien avec la terre. Et puis voilà, des paysans qui ont qui ont une perception assez large de leur de ce que c'est que l'agriculture et le vivant, quoi. Donc il y a un petit café associatif à côté de chez moi, le café villageois, où il y a des tas de spectacles, des tas de concerts, des débats, un potager. Non, il y a quand même aussi, j'ai quitté le Luberon, et cette mouvance n'avait pas trop pris, tout ce qui était un peu alternatif, construire autrement, et puis le bio, etc. Et puis là, je reviens, ça a un peu plus pris quand même, avec l'effet du Sud qui ne va pas sans la frime et sans la mode, quoi. Mais bon, voilà, ça me fait rire, ça me plaît bien.
Tu parles d'agriculteurs, du monde paysan, du Luberon. Est-ce que tu as des échos sur le sentiment qu'ils ont de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes sur ces terrains expérimentaux et de laboratoire pour une possibilité d'une autre agriculture?
Ben oui, en tout cas le milieu dans lequel je suis tombée là, ils sont carrément sensibles à tout ça. Et ils ont des projets qu'ils ont envie vraiment d'aller dans ce sens-là, et puis de contrer tout ce qui est spéculation à outrance, de vendre des terres agricoles pour des complexes. Là-bas, c'est beaucoup le vin. Hein. Donc, pour des gros complexes touristiques, œnologiques et tout ça, ils essayent de lutter contre ça. Et pour l'instant, ils se sentent pas hyper, hyper forts. Mais du coup, ils s'organisent là. En ce moment, ils sont en train de s'organiser, de se mettre à plusieurs et essayer de racheter des terres pour que ça continue à être des terres vivantes et qui fassent vivre des paysans. Donc là, je crois que je suis vraiment arrivée dans un vivier hyper intéressant. Et puis, ils étaient très curieux aussi quand je suis arrivée à Cucuron. Il y avait je suis à Cucuron. Donc, je suis arrivée à Cucuron, il y avait des réunions citoyennes. Donc, ils étaient très curieux de ce qui se passait à Die avec la criée, de ce qui se passait à Saillant. Donc ils s'organisent vraiment, quoi, pour que, pareil, en réunion citoyenne, des initiatives locales, monter une épicerie locale. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de grésiller, d'essayer de se mettre en place.
En quelque sorte, tu dis aussi que ces personnes se mettent en collectif ou ont le désir de se mettre en collectif pour mieux gérer l'agriculture locale.
Oui.
Et ça va à l'encontre de ce que souhaite le gouvernement par rapport à Notre-Dame-des-Landes, qui exige des projets nominatifs, individualisés. Voilà. Et ça, c'est depuis tout temps. Je suis en train de lire un truc sur l'histoire de la descente de la monarchie avant 1789. Oui. Et c'était le même cadre. C'est-à-dire qu'il y avait des gros propriétaires et puis il y avait à côté des petites communautés de paysans qui travaillaient pour eux ensemble, mais qui étaient écrasés financièrement par les droits féodaux. Voilà. On revient même pas à la même chose. Hein. D'autant que les statistiques sont à peu près similaires. On parle de 1% à l'époque. 1,5% de gens qui vivaient des rentes, les actionnaires d'aujourd'hui. Ouais. Hein, voilà. Enfin bon, ça c'était un entre parenthèses.
En tout cas, ce vivier un peu dans lequel je suis arrivée, ce groupe de gens qui m'ont accueilli bien chaleureusement dans le Luberon et qui font pas de spectacle pour le coup. Ça m'a fait prendre conscience, et qui m'ont donné ma place, ça me fait prendre conscience en fait que comment j'ai envie de pratiquer aussi, de continuer à pratiquer mon savoir-faire, mon métier, et de raconter des histoires ou de faire des spectacles. Je sais pas comment dire, c'est la même valeur.
De travail.
C'est pas tant dans le cadre, dans une échelle de valeur, mais en tout cas, ça a complètement sa place avec celui qui va cultiver un champ de manière respectueuse. Et il me donne ma place, et moi, je les écoute Je m'inspire aussi de leurs mots, de ce qu'ils disent de leur travail avec la terre. Pour moi qui suis travailleuse des mots, et ben que je puisse retranscrire ça, témoigner de ça. Et je trouve que ça a une importance. J'ai vraiment l'impression d'être main dans la main avec différents corps de métier qui sont peut-être plus dans la matière que moi. Mais voilà, qu'on chemine ensemble et que ma réflexion nourrit leur travail et que leur travail nourrit ma réflexion.
Un peu une porteuse de parole en quelque sorte,
ouais.
Et de complémentarité avec leur activité. Donc, ouais. D'où la notion de collectivité aussi.
Ouais.
Voilà.
Et voilà, je trouve ça très riche et je pense que la manière dont on se sent vite à l'aise dans le Diwa, à communiquer avec tout le monde, à pas être anonyme, ben ça c'est assez porteur pour ensuite aller vers les autres et se sentir, je sais pas comment dire, mais dans une certaine ouverture, quoi, une certaine ouverture pour se dire et pour entendre l'autre. Voilà, j'ai l'impression que j'ai pas mal puisé ça ici. Bon, peut-être je l'avais déjà, hein, mais en tout cas que ça a pas mal solidifié cette aisance de rencontre avec l'autre, le Diwa.
Alors tu t'imprègnes des paroles des agriculteurs du Luberon et ce sont des paroles de leur quotidien ou alors est-ce qu'ils te parlent de leurs rêves aussi?
Bah, c'est des paroles du quotidien, mais c'est aussi par exemple, j'ai pas mal d'exemples, hein. C'est la pépiniériste qui fait les semences, qui fait les plants pour les maraîchers, par exemple. Je vais me balader avec elle un dimanche au bord d'une petite rivière qui est là-bas. Et puis, elle pense à ses plantes. Et elle les accompagne, elle leur parle en pensée. Et c'est de la poésie. Et en même temps, c'est vraiment son travail. Et je pense que si elle ne le vivait pas de manière poétique, son travail, eh ben, elle n'irait pas faire ce travail-là. C'est le maraîcher qui me parle de quand il passe le tracteur, la poussière, parce que c'est très poussiéreux, la poussière qui se soulève et qu'il voit les poules au loin dans la poussière. C'est une scène de western, tout d'un coup, qui me raconte. Moi, je trouve ça truculent, quoi. C'est le paysan boulanger qui m'explique comment se comporte la farine quand il moue son grain, comment se comporte la farine. Le grain reste toujours en lien avec le grain qui est déjà planté dans le champ. Enfin, ça sera un peu compliqué à expliquer là, mais en tout cas il m'explique toute une relation entre du vivant, quoi, entre le grain qui est dans son moulin et le grain qui est en train de pousser dans le champ, et comme s'il restait tout le temps en relation ces deux grains et que du coup ils s'influencent. Et je trouve que quelqu'un qui est attentif à ça, à ce point-là, et qui l'observe concrètement, moi je trouve ça génial. Je trouve ça super de pouvoir partager ça. Voilà, c'est plein de rencontres comme ça, ou alors un autre paysan qui lui, ce qu'il aime, c'est les grands banquets, et comme il a une ferme et qu'il a de quoi faire des grands banquets, ben, il accueille souvent des grandes fêtes et des grands banquets chez lui, où on mange bien, où on rit, où il y a de la musique. C'est toutes ces choses-là. C'est un peu comme si je revenais à quelque chose de la base, quoi, quelque chose d'assez essentiel.
À côté de ça, je n'arrive pas trop à situer, c'est Cucuron, tu disais ?
Ouais, Cucuron.
Cucuron, c'est une municipalité de combien d'habitants ?
Ah, je suis nulle à ça.
Mais c'est une ville comme
c'est
10,
c'est
un peu plus grand ?
Non, c'est plus petit que 10, c'est un village.
D'accord.
Ça serait, superficie, ça serait un village comme Châtillon, sauf que c'est plus habité, il y a beaucoup plus de gens, plus de villas en périphérie.
Oui.
Voilà. Mais je suis nulle en chiffres, je ne sais pas les retenir.
D'accord.
Et dire.
C'était à savoir, en fait, c'était le biais c'était pour arriver à cette question. La municipalité, dans son action, est sensible à ce travail de volonté d'être en collectif ?
Non.
Non, pas du tout ?
Non, pas du tout. Non, non, c'est une municipalité qui freine tout ça, qui...
Qui est plutôt du côté des gros propriétaires.
Ouais, voilà, c'est, on ne bouge pas, c'est comme ça, depuis toujours, voilà, on ne bouge pas. Et non, c'est pas folichon comme municipalité. Mais il y a un centre culturel qui a créé un chouette festival là, de rue qui s'est passé le week-end dernier, je crois. Et beau, il y a des belles initiatives culturelles et tout, ça cherche à se bouger là.
Il y a du financement en tout cas derrière, et grâce aux propriétaires, non, je suppose.
C'est ça, c'est quand même des régions où il y a du fric, c'est des régions riches, parce que par les propriétaires, bah, c'est le sud quoi aussi, hein, et le sud tout est plus cher et y a plus de fric quoi.
Moins de problèmes.
Moins de problèmes de quoi ?
Tout va bien, madame la marquise.
Je ne sais pas s'il y a moins de problèmes. Il y a d'autres problèmes.
D'accord. Ça sera une autre émission.
Ouais, ça sera une autre émission. Quand je serai revenu riche de l'Eldorado.
On peut rappeler quand même à la fin de cette interview, ton prochain passage, effectivement, c'est le...
À Valdrome, donc ça sera le vendredi 29 juin, au Festival de Valdrome, venez nombreux. Et avant ça, pardon, le 24 juin, je suis à la fête de la nature du département. Donc ça c'est au... Faut regarder sur le site du département en fait de la nature. C'est plus vers Chabeuil. Le 29 juin, Valdrome, le festival. Et le 7 et 8 juillet, Tâche de Compte à Abitaire. 7 et 8 juillet.
Et sinon, Agnès, tu as un site internet ?
Le site, c'est www.lafabriquedhistoire, tout attaché, histoire au pluriel, .com.
Voilà. Et ouais. Pour les inscriptions au stage, l'idéal, ça serait de s'inscrire à partir de quel moment pour y participer ?
Le plus tôt possible, comme ça, moi, je suis rassurée qu'il y a... je m'organise, parce que s'il y a... Comme ça, on peut clore les inscriptions assez vite. Si tout le monde s'est décidé à la dernière minute, c'est mieux de le faire le plus vite possible. Et il faut m'appeler, moi, directement. Donc on trouve toutes les coordonnées sur mon site, et puis je vais faire circuler des mails et peut-être des affiches ou des petites flyers dans le Diwa.
Eh bien Agnès, merci d'avoir donné un peu de ton temps et nous te souhaitons un bel avenir.
Ouais. Merci à toi Yves.
Au revoir.
Ouais, merci beaucoup.